France Culture. France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
30 ans après la mort de son inventeur, existe-t-il un avenir pour le mitterrandisme ? Tout le monde se souvient de cet adieu sibyllin que le président socialiste adressa aux Français. « Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas ». Sentence aux accents quasiment monarchiques, résumant tout le paradoxe de cet homme qui, 35 ans plus tôt, était le premier contempteur de la 5e République. Mais il y a cette autre confession, plus déroutante encore. À la fin de sa vie, François Mitterrand confia à plusieurs de ses interlocuteurs, dont Georges-Marc Benamou, qu'il pensait qu'il serait le dernier des grands présidents. Sous l'effet de la construction européenne, de la mondialisation, de l'accélération de la vie politique, aucun de ses successeurs ne pourrait, selon lui, habiter véritablement la charge qu'il avait exercée pendant deux septennats. À l'aune des crises que la France traverse de nos jours, comment comprendre cet avertissement en demi-teinte lancé à l'attention de la postérité ? François Mitterrand, le dernier des grands présidents, j'aurai le plaisir d'en débattre sans préjugés, aux côtés de Jacques Attali et Nathalie Saint-Cricq.
France Culture, sans préjugés, Nathan Dever.
Bonjour Jacques Attali.
Bonjour Nathan.
Alors, il est très difficile de vous présenter, mais si je devais le faire en quelques mots et en étant un peu réducteur, vous êtes écrivain, économiste, président de France Positive, auteur d'une œuvre extrêmement prolifique, plus d'une centaine d'ouvrages, romans, pièces de théâtre, livres d'histoire, d'économie, etc. Je signale votre dernier livre France 2040, Fragments d'avenir, ouvrage collectif paru aux éditions Flammarion. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup parler des années où vous avez été conseiller spécial de François Mitterrand et des écrits que vous avez publiés à ce sujet. Et bonjour Nathalie Saint-Cricq.
Bonjour Nathan.
Vous êtes éditorialiste à France Télévisions. Vous avez été, on va en parler, journaliste au moment du deuxième septennat de François Mitterrand que vous avez connu dans ce contexte. Et vous avez aussi écrit des romans politiques. On peut citer notamment votre dernier, L'ombre d'un traître, publié aux éditions de l'Observatoire. En guise d'introduction, je voulais vous demander ce que vous avez pensé de la commémoration cette année, du 30e anniversaire de la mort de François Mitterrand, le 8 janvier 1996. Est-ce que vous avez l'impression que sa mémoire a été célébrée, je dirais, à sa juste valeur, ou qu'il y avait une forme d'érosion, comme l'ont dit certains journaux, de sa place dans l'histoire française, Jacques Attali ?
D'abord, moi, je ne suis pas un gardien du temple et j'ai depuis longtemps tourné cette page qui n'était qu'une page de ma vie, tout en étant très fier de cette page, ayant fait avant, après et même pendant beaucoup d'autres choses. Je ne me considère pas comme juge de la question que vous venez de poser. Je dirais que la place de François Mitterrand dans l'histoire est garantie par l'immensité de l'œuvre qu'il a accomplie, tellement immense que peu de gens se souviennent que beaucoup de choses qui sont aujourd'hui en œuvre, comme évidemment l'abolition de la peine de mort, la décentralisation, les radios dites libres, etc., ont été décidées par lui et de son temps. Et s'il y a érosion de sa mémoire aujourd'hui, je pense que c'est plus un baromètre de l'érosion de la social-démocratie. Si la social-démocratie était triomphante et si elle était au pouvoir, elle aurait été dans l'esprit, il aurait été dans l'esprit du temps de célébrer cet anniversaire d'une façon fastueuse. La social-démocratie va mal. L'extrême gauche vitupère contre le traître François Mitterrand tous les matins. L'extrême droite le vomit. La droite qui est au pouvoir aujourd'hui en France l'a toujours considéré comme un ennemi, donc il n'y avait aucune raison, et l'état d'esprit des Français est plutôt aujourd'hui de droite, donc il n'y avait aucune raison que ces cérémonies soient glorificatrices d'une façon quelconque.
Moi, j'ai trouvé, j'irai un peu plus loin, n'étant absolument pas pour autant une gardienne du temple, il y avait une forme de tristesse à voir chaque année un peu de moins de gens, un peu moins de faste, un peu moins de souvenirs, alors même que là, c'est un anniversaire rond. Je dirais effectivement, comme Jacques Attali, que tout le monde a pris un peu ses distances vis-à-vis de François Mitterrand, le Parti Socialiste.
Alors, c'est pas du tout ce que j'ai dit.
Ah non, attendez, Moi,
vous avez dit, je dirais comme Jacques Attali, c'est pas ce que
alors,
j'ai dit.
Je ne dirais pas comme Jacques Attali, le Parti Socialiste a pris ses distances.
Non,
j'ai le droit de le dire, moi, non ?
Ah pardon, alors je vous laisse le dire.
Bon.
C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Alors le Parti Socialiste a pris ses distances vis-à-vis de François Mitterrand. Ils sortent sa mémoire quand ça peut les arranger, mais le reste du temps, ils sont d'une grande discrétion. Deuxièmement, les vrais mitterrandistes dans le temps, si j'ose dire, il y en a de moins en moins. Et ensuite, je pense que la mémoire globale, le souvenir qu'on a de François Mitterrand, est quelque chose de beaucoup plus confus et composite et un peu impressionniste que ce qu'on peut avoir d'un De Gaulle. C'est-à-dire avec un certain nombre de révélations qu'il a pu y avoir par la suite, un certain nombre de choses sur sa véritable vie, sur la période de Vichy, sur tout ça. Il ne peut pas être célébré comme un héros qui ne pose pas question, comme certaines autres personnes. Par ailleurs, c'est vrai que l'époque ne se prête pas tellement à des célébrations et que le panthéon des hommes politiques aimés par les Français aujourd'hui est extrêmement éloigné de ce qu'on aurait pu imaginer il y a quelque temps. Quand vous voyez le top, pour parler vulgairement, des 5 personnalités préférées, c'est pas forcément des gens qui ont un passé, c'est des gens dont les Français souhaitent qu'ils aient un avenir, mais on ne peut pas dire qu'il y ait une forme de révérence vis-à-vis des grandes choses qui ont été faites, des grands travaux, la façon dont François Mitterrand a fait basculer la République dans une forme de modernité, quand Jacques Attali, cette fois-ci, je ne cite platement les mots, parle de l'abolition de la peine de mort ou des radios libres, il y a eu effectivement quelque chose qui s'est passé à cette période. Et maintenant, je trouve, enfin, ça c'est peut-être un syndrome de personne vieillissante, mais je trouve que la qualité en plus des hommes politiques, non pas de nos jours, mais depuis quelque temps, n'est vraiment pas la même. C'est-à-dire, il y avait un oratoire, il y avait quelque chose, il y avait une passion pour la littérature, il y avait des références dans les discours, il y avait une forme de structuration mentale qui faisait que quand il s'exprimait, c'était quand même quelque chose qui se passait.
Moi, ce qui m'a interpellé, mais peut-être ai-je tort, c'est que j'ai eu l'impression que la structure actuelle du Parti Socialiste a rendu, à certains égards, un hommage un petit peu timide. Alors, François Hollande, était à Jarnac le 8 janvier, mais Olivier Faure a publié un livret dans la collection Repères Socialistes, où il écrit qu'il n'a jamais été mitterrandien par réflexe affectif, où il rend plutôt hommage à Michel Rocard, où il dit qu'il est plus sensible à l'éthique de responsabilité qu'aux formes de mise en scène du pouvoir. Donc là, il cible un peu François Mitterrand, et qu'à l'inverse, et c'est peut-être paradoxal, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, Jacques Attali, mais Jean-Luc Mélenchon, qui appartient pourtant à un mouvement qui est assez critique, en tout cas qui n'est pas du tout sur la ligne politique de la social-démocratie, ne cesse de rendre hommage et de refuser en tout cas d'émettre la moindre critique à l'égard même de l'individu François Mitterrand, et sur son bilan politique, il dit s'il a fait des erreurs, c'était le fruit des responsabilités, des circonstances, mais lui, on ne peut pas lui imputer la moindre responsabilité là-dedans.
Je ne considérerai pas les compliments de M. Mélenchon autre chose que comme des cadeaux empoisonnés. Ce personnage, en effet, essaye de copier François Mitterrand, même dans sa façon de s'habiller, de porter un chapeau, une écharpe, etc. C'est ridicule. Il a aussi, c'est vrai, une certaine forme d'érudition et d'éloquence, mais sa proximité avec le personnage qu'il n'a très peu connu, puisqu'il n'est arrivé que comme sous-secrétaire d'État à la formation professionnelle à la fin du second mandat de François Mitterrand, est assez dérisoire. Je pense qu'il faut d'abord replacer les choses dans leur contexte. C'était une période très différente d'aujourd'hui, où le président était vraiment tout puissant, 2 mandats de 7 ans, une majorité parlementaire très large la première fois, puis relativement solide la deuxième fois. Il me disait souvent, si je voulais, je pourrais nommer le moindre jardinier de sous-préfecture, mais je m'en abstiens. Parce qu'il avait une conscience démocratique qui le poussait à demander à ses collaborateurs en permanence « laisser les ministres décider ». Donc il y avait une situation complètement différente de ce qui s'est passé ensuite, par la volonté conjointe d'ailleurs des présidents suivants, qui ont été des fossoyeurs de la grandeur de la République, puisque le mandat à 5 ans est une tragique erreur, me semble-t-il, puisqu'elle ne permet pas au président de prendre des mesures impopulaires en s'inscrivant dans la durée. Et toute une série de mesures qui ont été prises ensuite ont conduit à réduire la fonction présidente. On peut l'admettre, on peut considérer qu'elle était trop grande, trop puissante, etc. Mais on ne peut pas se plaindre d'une diminution de la fonction et même d'une diminution de la qualité des personnes qui avaient le faire. Et là, je suis entièrement d'accord avec Nathalie Saint-Cricq. La qualité du personnel politique a beaucoup baissé, même si je note avec beaucoup d'intérêt que dans la génération d'après, celle des gens de 30 ans, 32, 33, 35, il y a des gens remarquables, de même niveau que ceux qui entouraient François Mitterrand, qui lui, à la différence de ses successeurs, aimait s'entourer de gens de talent, moi exclu, ce qui n'a pas été le cas de ses successeurs, y compris de l'actuel président. Et je note dans la jeune génération, des jeunes parlementaires ou des jeunes intéressés par la politique, un espoir de voir des gens nouveaux, de talents apparaître. Après une période très sombre que nous traversons en ce moment.
Nous le souhaitons. Sur Mélenchon, c'est un cas, alors je ne vais pas dire que je suis d'accord avec vous, je vais dire moi-même ce que je pense, pour éviter de transformer vos propos. Jean-Luc Mélenchon a une passion pour François Mitterrand, passion quasi irrationnelle psychologiquement, c'est-à-dire qu'il l'appelle, il s'inscrit dans ce qu'il voudrait être une filiation. C'est-à-dire, il dit le vieux. Il y en a un qui est un petit peu en dessous de François Mitterrand dans son panthéon, c'est Lionel Jospin. C'est les deux. Et c'est vrai qu'il singe François Mitterrand. Alors, on a tous vu la charpe et le chapeau. Et d'un autre côté, quand on voit ce qu'il défend, c'est en l'extrême opposé de tout ce que pourrait dire François Mitterrand. Donc, il y a une forme, non pas d'imposture, c'est peut-être ce qu'il y croit, mais c'est une façon, c'est un positionnement, une posture, quelque chose qui n'a absolument aucun rapport avec, typiquement, la pensée social-démocrate de François Mitterrand. On est à l'opposé. Je ne pense pas que François Mitterrand, s'il voyait le comportement du groupe LFI à l'Assemblée en ce moment, trouverait que c'est formidable.
Alors justement, Nathalie Saint-Cricq, peut-être que le fait que François Mitterrand ait des imitateurs de ses réflexes, de son style, est en écho, en résonance, avec l'un de ses, non pas son dernier discours, mais en tout cas l'un de ses prises de parole qui a marqué une forme d'adieu vis-à-vis des Français, ses vœux, les derniers vœux présidentiels qu'il a adressés au peuple, à l'Élysée.
L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai, le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin, et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas.
Jacques Attali, nous allons discuter longuement de la doctrine politique de François Mitterrand, de son rapport à la Constitution. Mais comment comprendre cette phrase ? On a l'impression d'y entendre des accents, je disais tout à l'heure en introduction monarchique, peut-être mystique. Est-ce que ça fait appel à une vision comme ça d'un Mitterrand qui allait rester dans l'éternité de la France ?
Monarchique sûrement pas, mystique sans doute, et son obsession que j'ai vu vivre dans les 10 ans que j'ai passé avec lui dans l'opposition et 10 ans que j'ai passé avec lui à l'Élysée, son obsession qui était à la fois narcissique et d'intérêt général, c'était quelle trace laisserai-je dans l'histoire. C'était une obsession. Chaque jour où il avait une décision importante à prendre, il essayait de se placer dans cette position. Que pensera-t-on de cela dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans ? Donc, l'idée de rester, je crois, en force de l'esprit, j'espère être dans votre esprit. Et c'était son obsession. Naturellement, on peut penser être dans son esprit par le mal, ce qu'a été Adolf Hitler, mais lui pensait, espérait l'être par le bien, pas seulement par les grands travaux, mais par toute une série de choses. Ça a été des grandes choses que j'ai appris avec lui, c'est l'importance de penser au long terme quand on fait quoi que ce soit dans sa vie, tant personnelle que publique.
Je pense que quelqu'un qui, quand on le fréquentait moins bien, moins que Monsieur Attali, mais quelqu'un qui était capable de faire un détour d'une heure et demie pour visiter une église, pour aller dans un cimetière, qui avait une vision totalement métaphysique de l'existence, qui au moment de ses obsèques, on découvre qu'une messe est possible. C'est-à-dire qu'il est inclassable. On peut pas dire qu'il est, on peut pas dire des choses profondément. Même quand on avait une discussion littéraire sur la littérature avec lui, c'était plus grand que la nature, c'est-à-dire qu'il essayait toujours, même dans des discours, de nous montrer les choses en plus grand que ce qu'elles étaient, comme si ça avait un sens supplémentaire, un supplément d'âme. Donc moi, j'ai pas spécialement été étonnée quand je l'ai entendu ça. Je me suis pas dit, il a fait une crise mystique pendant la nuit. Faut penser aussi que c'était un homme qui était malade depuis longtemps, qui savait que sa vie était en suspens depuis 81, et que à partir de là, il dit, je ne nous quittera pas, mais on ne sait pas où il sera, et qu'il a vu une vision grandiose des choses. Et je pense que pour faire ce qu'il a fait pour tout président, faut avoir une vision un peu romanesque, un peu puissante et un peu profonde des choses. Autrement, ça ne marche pas.
France Culture, sans préjugés. Nathan Dever.
Parmi les grands paradoxes qui ont façonné l'existence de François Mitterrand, il en est un peut-être qui mérite d'être souligné. C'est que François Mitterrand, à l'aube de la Ve République, en l'occurrence en 1964, a fait paraître chez Plon un livre, un pamphlet qui s'appelait « Le coup d'État permanent » où il critiquait très violemment cette nouvelle constitution, ce régime présidentiel qu'il associait à une dictature. Et il critiquait en particulier la personne du général de Gaulle dont il se moquait, appartenant, je cite, à cette race d'hommes singulières qui ne s'épanouit que dans l'orage et la tourmente, de Gaulle ayant comme meilleur ami et comme ennemi et comme compagnon le malheur, sans savoir lequel fut plus nécessaire à l'autre entre de Gaulle et le malheur. Jacques Attali, dans « C'était François Mitterrand », vous racontez, au moment de votre rencontre avec Mitterrand, je vous cite, que vous-même, quand vous, dans les années 70, vous aviez choisi votre camp. Être de gauche, pour moi, ne se discutait pas, c'était une affaire de famille. Être anti-gaulliste, encore moins. Est-ce que c'est ça, initialement, qui vous a amené à le rencontrer et à faire commencer cette amitié avec lui ?
Non, j'étais de gauche d'abord. Être anti-gaulliste était accessoire, ça venait d'une tradition familiale, parce que pour mon père, qui était communiste tout en étant bourgeois venant d'Algérie, mai 58, c'était un coup d'État. Et j'ai toujours vécu avec l'idée que mai 58, c'était un coup d'État et que de Gaulle est l'héritier d'un coup d'État. Même si j'ai beaucoup d'admiration pour l'homme d'avant, pour l'homme d'après, pour tout ce qui s'est fait pendant la Ve République par ailleurs, il n'empêche. Et avec François Mitterrand, nous avions cette connivence de penser que de Gaulle était le porte-parole d'un coup d'État, qu'on voit d'ailleurs très bien décrit aujourd'hui dans les livres d'histoire. On sait maintenant que c'était un coup d'État en 1958. Et quand il est arrivé en fonction, je l'ai dit en passant tout à l'heure, son obsession a été d'exercer la présidence d'une façon très différente de celle de Gaulle et de ses prédécesseurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la première note, annotation qu'il a mise sur les notes de ses collaborateurs, de façon extrêmement répétitive jusqu'à ce qu'il finisse par l'entendre, « Laissez les ministres décider ». Je ne veux pas être un président qui décide tout. Je pourrais, vous imaginez, il avait une majorité parlementaire totale sans les communistes pendant le premier mandat. Il pouvait tout faire, absolument tout. Et d'ailleurs, il y avait une sorte d'aspiration monarchique dans le pays que tout remontait. Toutes les décisions les plus minuscules remontaient à lui et il aurait pu nommer son cheval à la tête de la Cour des comptes s'il avait souhaité le faire sans que personne ne bronche. Et les médias étaient aux ordres comme ils l'avaient été aux ordres du président Giscard d'Estaing avant. Donc il y avait une très grande volonté et pas facile à faire respecter de casser le monarchisme de la Ve République, tout en conservant, bien sûr, la Constitution, en étant soucieux de la respecter à l'extrême, de ne rien faire qui puisse lui nuire, lui qui était tout le temps en retard dans l'opposition, même d'une façon volontaire, maladivement, il faisait attention, même, je me souviens d'avoir attendu avec lui qu'il y a un quart d'heure de retard pour pouvoir aller à un déjeuner alors que nous étions à l'heure. Quand il a été président, ceci était terminé. Il était dans le respect absolu de toutes les règles et de les conventions. Mais il a vraiment voulu casser le caractère monarchique de la Ve République, oui.
Il y a un extrait dans le coup d'État permanent que j'aimerais vous lire. Qu'est-ce que la Ve République, sinon la possession du pouvoir par un seul homme, dont la moindre défaillance est guettée avec une égale attention par ses adversaires et par le clan de ses amis ? Magistrature temporaire ? Monarchie personnelle ? Consulat à vie ? Et qui est-il, lui, de Gaulle ? Dulce ? Fourreur ?
Caudillo ?
Conducteur ? Guide ? J'appelle le régime gaulliste dictature, parce que tout compte fait, c'est à cela qu'il ressemble le plus. Nathalie Saint-Cricq, que vous évoque ces lignes ?
Bah, je rajouterais le gaullisme, c'est de Gaulle plus la police. Y a autant la virulence de 64 du coup d'État permanent est absolument incroyable, parce qu'aujourd'hui on dit la vie politique est violente. Alors elle est surtout violente dans les invectives bas de gamme, si j'ose dire, mais là, parce que on peut très bien utiliser les noms communs, c'est-à-dire Führer, mais Führer dans la tête des gens à cette époque, ça reste quand même Hitler, Caudillo, ça reste Franco, et Dulce, ça reste Mussolini. Et je ne vais pas tous vous les faire. Donc il y a quand même une violence qui est extrêmement grave, enfin extrêmement lourde, contre ces institutions et contre la personne de De Gaulle. Je vous rappelle au passage que De Gaulle appelait Mitterrand l'Arsouille, ou alors le Rastignac de la Nièvre. Donc il y a entre les deux, deux visions, au mieux deux visions différentes de la constitution du pays des choses. Je vous rappelle aussi, et on l'a vu, je l'ai appris moi, il y a deux jours dans un papier, je crois, du Figaro, que François Mitterrand avait demandé deux fois être compagnon de la Libération, et qu'à chaque fois, deux fois, De Gaulle avait barré son nom sur la liste, donc il y avait un antagonisme très fort. Et le paradoxe de cet antagonisme, c'est qu'il ait réussi à se couler aussi bien dans les institutions. Alors, pour Jacques Attali, en démonarchisant les choses... Dans le deuxième septennat, c'est moins évident. Je vous rappelle que la campagne a été faite en 88 où on l'appelait Dieu, qu'il arrivait dans les meetings, non pas entouré de gens qui lui le touchaient, mais avec un tapis rouge et des potelés sur le côté pour rien. Et il y avait une mise en scène à l'époque par les conseillers en communication de François Mitterrand, messieurs Pilan et Collet, qui était de le mettre au-dessus de tout. Donc, il était quasiment... Je vous rappelle que même dans les émissions comiques, on l'appelait Dieu. Que ce soit, je ne sais plus si ça existait, ça doit être le bébé de chaud, des choses comme ça. Mais c'est quand même assez symptomatique de la vision qu'on avait de François Mitterrand. C'est-à-dire de quelqu'un qui est au-dessus du lot, mais véritablement au-dessus. Il avait bien gagné en 88, mais aussi quelqu'un qui dominait un peu les choses. Alors, c'est peut-être pas monarchique, le mot qu'il faut utiliser, mais c'était quand même pas le bon... C'est peut-être pour ça qu'il a pensé, lui, être un des derniers grands présidents. C'était quand même pas la personne à qui on tape sur l'épaule en disant, comme on le fait dans les pays nordiques, avec un Premier ministre ou... Donc, il a joué sur ces institutions, il les a combattues et il les a utilisées à merveille.
Jacques Attali, dans le premier tome de Verbatim, vous racontez que quand Mitterrand est élu et qu'il vous donne ce rôle un peu sans pareil dans la République, puisque vous étiez à la fois son conseiller, mais vous continuiez d'être écrivain, de voyager, d'enseigner, d'être intellectuel. Et vous racontez qu'il y avait au tout début une forme de timidité. François Mitterrand n'avait pas été au gouvernement depuis la 4e République. Il y a une anecdote notamment que le premier jour, après le déjeuner qui est organisé à l'Élysée, où vous faites un petit café sur la terrasse avec les invités, et que Paul Guimard vous dit « Dépêche-toi de finir, la salle est réservée pour l'après-midi », comme pour suggérer que les lieux vous semblaient un peu hostiles, ou en tout cas comme s'il y avait une forme d'imposture ou de décalage entre le pouvoir socialiste et la fonction présidentielle. Comment, de cette... timidité de départ, très vite, le pouvoir a repris sa place.
Non, François Mitterrand il avait réfléchi énormément à l'exercice du pouvoir. Et donc, à la minute même, après ce déjeuner où il est monté dans le bureau présidentiel, en me demandant d'ailleurs de l'y accompagner pour une série de choses précises à faire, il était président. Il n'y a pas eu une seconde d'incertitude, d'hésitation. Il n'a pas posé une seule question sur l'exercice des fonctions. Il y avait réfléchi et il l'a fait d'une façon tout à fait naturelle. Je dois dire qu'il y avait quelque chose qu'on peut difficilement comprendre. C'est qu'il était très impressionnant. Moi, j'avais un père qui était aussi très impressionnant, et c'est peut-être les deux seules personnes qui m'ont impressionné. François Mitterrand était un peu comme un oncle pour moi, il avait presque 30 ans de plus que moi. Il était très impressionnant. Il était impressionnant pour ses amis, comme pour ses collaborateurs, comme pour ses adversaires, et il était capable de maintenir une distance humaine, un peu comme une sorte de bras de fer virtuel permanent, même quand il était avec des amis en une situation chaleureuse. Il y a des gens comme ça, hommes ou femmes, qui ont une capacité, une aura, une puissance qui s'inscrit aussi dans le verbe et dans la puissance du raisonnement, qui rendait les choses plus faciles pour lui dans l'exercice du pouvoir. Et ça se voyait aussi avec ses interlocuteurs étrangers. Donc ça joue beaucoup. Et ensuite, quand vous avez le président suivant, dont une des premières répliques que j'ai entendues, c'est en réunion, c'est « je sors pour aller pisser », pardonnez-moi, c'est pas un truc qu'aurait dit François Mitterrand. Michel Rocard disait ça aussi. Donc, sa capacité à maintenir un mystère, une distance, a beaucoup joué, sans doute, dans l'aura et les plaisanteries sur Dieu qu'on lui attribuait à l'époque.
Il était d'abord extrêmement intimidant, ça je peux en témoigner. Il était intimidant, pas que pour les journalistes, il était intimidant pour les ministres qui avaient une peur bleue de lui. Il était froid quand il voulait l'être, et il décidait souvent de l'être pour impressionner. Et quand vous parliez de l'anecdote de Paul Guimard tout à l'heure, en fait, je pense qu'il y a une histoire de classe. C'était Roger Hanna, on m'avait raconté que le premier jour où ils sont allés déjeuner, ça devait être le même déjeuner que vous, il m'avait dit que les serveurs à table les regardaient comme si c'était des ploucs, en se disant, est-ce qu'ils vont savoir se servir d'un couvert à poisson? Parce qu'en gros, c'est des gens de gauche, donc c'est des gens qui n'ont pas d'éducation, sont pas des chics. Et Roger Hanna en avait rajouté, évidemment pour s'amuser, en faisant le rustre. Alors que François Mitterrand... Mais d'abord, c'est un bourgeois, François Mitterrand. Ce n'est pas non plus quelqu'un qui arrive au pouvoir en n'ayant pas les clés. Donc, ça aide probablement, ça aide les choses. Et je ne l'ai jamais trouvé... Ça ne fait pas partie de quelqu'un que le protocole effraie. D'ailleurs, il n'a jamais... Le protocole allégé, ça a été sous Giscard. Mais François Mitterrand n'a pas décidé de dépoussiérer. Il considérait que la fonction nécessitait un certain décorum. Donc je pense que sa façon d'écarter un certain nombre de personnes ou de leur faire peur... Michel Rocard, il faisait attendre une heure quand il voulait le recevoir. Et il nous faisait savoir, nous, dans la cour de l'Élysée comme des ânes, qu'il l'avait fait attendre pour bien montrer qu'il le prenait quand il voulait. Chirac nous avait raconté quand il avait arrêté de fumer en 88, et que c'était donc après la cohabitation, enfin dans la période de cohabitation, François Mitterrand l'accueillait dans son bureau, attendait que Chirac se mette à fumer, parce qu'il fumait non-stop, et qu'il se mette à chercher des cendriers comme un malade, cendriers qu'il avait fait enlever avant. Alors est-ce faux, est-ce vrai? Mais l'idée que Mitterrand, avec sa grandeur, si j'ose dire, ait pris le soin d'enlever les cendriers pour que le pauvre Chirac s'agite, s'excite, et soit avec son mégot au bout de se l'écraser dans les mains, si vous voulez, ça donne des éléments sur son caractère.
Et en même temps, Jacques Attali, je ne sais pas si vous serez d'accord avec cette analyse des choses, mais entre le pamphlet du coup d'État permanent que je citais tout à l'heure et la manière dont François Mitterrand a exercé le pouvoir, un des aspects sur lesquels il n'a pas été monarchique, et il a rétabli une forme d'esprit parlementaire ou en tout cas d'équilibre, c'est qu'il a de facto inventé la situation de la cohabitation. Est-ce que vous pensez que la manière dont, en 86 et en 93, il a réussi à assurer la continuité de l'État tout en tenant compte de l'évolution électorale, a joué pour beaucoup dans la manière dont il a façonné à sa guise la fonction présidentielle?
Ben, ça a été un moment passionnant que 86. J'étais en première loge, puisque, étant à l'Élysée son collaborateur, j'ai dû gérer avec lui, inventer la cohabitation. On ne savait pas du tout. On ne savait pas si on allait conserver la défense, la politique étrangère, si moi-même, qui étais Sherpa, j'allais continuer à l'être, ou si cette fonction basculait chez le Premier ministre. On l'a inventé en marchant. Et il avait une idée très rigoureuse de ce qu'il voulait. Défense, politique étrangère, c'est moi. Mais en même temps, parce qu'il avait aussi une compétence extraordinaire dans ces domaines, et l'aplomb qu'il avait dont parlait Nathalie tout à l'heure, a joué. Je me souviens du premier conseil de défense où le premier ministre de l'époque, Jacques Chirac, a essayé de, plus que timidement, mais pas du tout timidement, avec l'appui des généraux et du ministre de la Défense, M. Giraud, d'imposer l'utilisation de l'arme nucléaire, la dotation d'armes nucléaires tactiques à l'armée de terre, et la façon dont tout seul dans la réunion, et puisqu'il était seul avec moi et son chef d'état-major particulier, il a dit non, point, et c'était non. Et là, ça a fixé une règle absolue, c'est que la politique de défense reste au président de la République, et ça, c'est un acquis très précieux, qui aurait pu basculer en sens contraire si le président de la première cohabitation n'avait pas été François Mitterrand. De même pour la politique étrangère, quand il a fallu affirmer que le représentant de la France au sommet du G7, au sommet européen, c'était le président de la République, ça aurait pu être différent. Mais c'est sa compétence, c'était vraiment une guerre psychologique, une partie de poker. Rien dans les institutions. Le 14 juillet 86, il y a eu presque une tentative de coup d'État de Jacques Chirac, qui a dit à François Mitterrand au téléphone, tard dans la soirée, j'étais là, « Monsieur le Président, vous êtes en situation de forfaiture. » Et François Mitterrand m'a suggéré de rester avec lui, passer la nuit à l'Élysée, parce qu'on craignait une tentative de coup d'État. Parce que François Mitterrand avait refusé de signer des ordonnances qu'il n'a finalement pas signées, puisque le Premier ministre s'est couché. Il ne faut pas oublier que Jacques Chirac était convaincu que François Mitterrand démissionnerait très vite. Et donc il a fait un forcing pour le pousser à démissionner. Et on connaît la suite.
Nathalie Saint-Cricq, est-ce que finalement ce dont nous discutons à l'instant ne résonne pas étrangement avec l'actualité politique, cette crise que nous traversons, cette crise chronique que nous traversons depuis la dissolution. Est-ce que le balancement de la vie de François Mitterrand, cette oscillation entre la critique de la Ve République et une sorte de souplesse qu'il a incarnée quand il était président dans l'utilisation de la Constitution, ne peut pas nous éclairer ?
Écoutez, pour que ça puisse être le cas, il faudrait probablement qu'il y ait des relations rationnelles en ce moment entre les groupes politiques. Or, je pense qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de rationnel, ni dans le bien du pays, ni pour la belle l'image correcte de la vie politique. C'est-à-dire qu'on a, sans vouloir faire de dégagement sur l'actualité aujourd'hui, on a une espèce de motion de censure de la France Insoumise et du Rassemblement National, dont on se demande bien ce qu'elles viennent faire là, vu que, par exemple, le Mercosur n'a pas été... On a voté non. Bon, donc, ça pourrait être une source d'inspiration s'il y avait une espèce de logique. Mais tout à l'heure, Jacques Attali parlait du septennat et du quinquennat. Je pense qu'on est dans une logique folle en ce moment avec l'obsession, la fièvre obsessionnelle des présidentielles qui fait que personne n'a un comportement rationnel. Or, c'est vrai que même si la cohabitation avait été envisagée, notamment par Giscard en 78 quand il a fait son discours de Verdun sur le Doubs, avant législative, en se disant, si on perd, finalement ils ont gagné, mais si on perd, on en tirera les conséquences. François Mitterrand a tiré les conséquences, il a respecté parfaitement les institutions. Il y a eu des frottements, même plus que des frottements dans les premiers mois, mais après ça s'est arrangé avec Chirac. Enfin, ils se sont mis au pas. Enfin, surtout François Mitterrand a mis Jacques Chirac au pas, et Jacques Chirac, sur le fond, a abandonné, et les choses ont marché correctement. Et dans la deuxième cohabitation, ça a été un peu dit avec Balladur, c'était un petit peu différent, c'est-à-dire que ça a commencé très gentiment, et ça s'est envenimé par la suite. Mais je pense que je n'ai pas le souvenir à l'époque d'avoir considéré que l'obsession présidentielle, urbi et orbi, je ne parle pas de celle de Chirac, je ne parle pas de celle de Balladur, puisque la fameuse phrase de Pompidou, c'est « on pense à l'Élysée dès qu'on a franchi les marches de Matignon ». Mais il y avait dans une vie politique plus ordonnée, gauche, droite, un certain nombre d'autres partis, mais avec des gens qui fonctionnaient, si j'ose dire, classiquement. Là, on a quelque chose qui est complètement erratique et dont on ne sait pas très bien jusqu'où ça peut aller.
Il y a peut-être une autre question mitterrandienne qui résonne étrangement et de façon vibrante avec la situation que la France et le monde traversent. C'est la question de l'avenir de l'Europe dont nous discutons dans un instant.
France Culture, sans préjugés, Nathan Devers.
Et je me suis rendu compte, lorsque j'étais prisonnier de guerre, en cours d'évasion, j'ai rencontré des Allemands. Et puis j'ai vécu quelque temps en Bade-Württemberg, dans une prison. Et les gens qui étaient là, les Allemands avec lesquels je parlais, je me suis aperçu qu'ils aimaient mieux la France que nous n'aimions l'Allemagne. Je dis cela sans vouloir accabler mon pays, qui n'est pas le plus nationaliste, loin de là. Mais pour faire comprendre que chacun a vu le monde de l'endroit où il se trouvait. Et ce point de vue était généralement déformant. Il faut vaincre ces préjugés. Ce que je vous demande là est presque impossible, car il faut vaincre notre histoire. Et pourtant, si on ne la vainc pas, il faut savoir qu'une règle s'imposera, mesdames et messieurs. Le nationalisme, c'est la guerre.
Jacques Attali, dans C'était François Mitterrand, vous consacrez une longue partie à la construction de ce chantier européen, en rappelant d'ailleurs que, initialement, vous, la construction de l'Europe ne faisait pas, je vous cite, partie de votre héritage, puisque vous aviez une forme de méfiance vis-à-vis de l'Allemagne et de passion de l'Amérique. Alors, le bilan de François Mitterrand en matière d'Europe est immense, mais vous insistez notamment sur le fait qu'il a toujours plaidé pour une Europe sociale. Il ne veut pas d'une Europe où le capital ne serait qu'imposé à moins de 20%, tandis que les fruits du travail le seraient à 60%, et que sans l'Europe sociale, les citoyens s'éloigneront de cette construction. Aujourd'hui, vous estimez que cet héritage-là, cette vision mitterrandienne de l'Europe, qu'en reste-t-il ?
Il en reste un idéal que je continue à prôner, d'une Europe sociale et d'une Europe qui intègre les peuples autrement que par les marchés. La tragédie européenne, c'est qu'on a considéré que la seule chose qui comptait, c'était l'intérêt du consommateur au détriment de l'intérêt du travailleur et de l'intérêt général de la défense commune. Et donc on a fait une Europe ultra-libérale. Nous nous sommes battus contre. Le premier sommet européen auquel François Mitterrand a assisté ou participé comme chef d'État a été un sommet où il a essayé d'imposer des idées sur l'Europe sociale. Il n'a jamais cessé d'essayer de le faire. Et depuis, ses successeurs n'ont pas essayé de nouveau. Ça n'était plus du tout d'actualité. Et on voit les dérives auxquelles cela a conduit et le désastre européen dans lequel nous sommes. On est en train d'essayer de retrouver une âme avec la nécessaire, l'urgente Europe de la défense. Mais c'est vraiment avec des décennies de retard, même si l'Europe de la défense trouve sa source dans les premières tentatives que François Mitterrand avait fait avec le chancelier d'Allemagne. Donc, oui. Au point même qu'en mars 83, où il n'y a pas eu de tournant, contrairement à ce qu'on raconte, il aurait pu avoir un tournant s'il avait décidé de sortir de l'Europe. Et il a choisi l'Europe contre le socialisme dans un seul pays. Et c'est là le grand choix qu'il a fait pour montrer que, bon, on a fait ce qu'on pouvait comme réforme. On ne peut pas faire davantage de réformes internes sans remettre en cause le projet européen. Je choisis le projet européen. Et il l'a fait passer au-dessus de, non pas des réformes accomplies, puisqu'aucune réforme accomplie en 81 n'a été remise en cause en 83, contrairement à ce que raconte la légende, mais au-dessus d'un approfondissement, d'une exagération, sans doute, penserais-je, pour ma part, des réformes nationales qu'il aurait voulu pouvoir promouvoir dans le cadre d'une Europe sociale, mais qu'il n'a pas réussi à faire parce que l'Allemagne était dirigée par des gens de droite, ce qui était le cas aussi de la Grande-Bretagne. Madame Thatcher, le chancelier Kohl, n'était pas un environnement propice à l'Europe sociale, évidemment.
Et juste une parenthèse, Jacques Attali, puisque vous en parlez, c'est une idée que vous affirmez notamment dans « Il y aura d'autres jolis mois de mai ». Cette histoire de tournant, et c'est vraiment une critique qui est adressée dans une grande partie de la gauche à l'héritage de François Mitterrand, c'est donc une illusion d'optique, une erreur historiographique ?
C'est une erreur idéologique. On veut faire croire que la gauche de François Mitterrand s'est trompée, a renoncé à ses erreurs en battant sa coupe. Non. Il y aurait eu un tournant à droite si on avait renoncé à toutes les réformes qu'on avait fait en 81, ce qu'on n'a pas fait. Il y aurait eu un tournant à gauche si on était sorti de l'Europe et avoir continué à approfondir l'Europe, le socialisme en quittant le système monétaire européen et la construction européenne. Il n'y a eu ni l'un ni l'autre. Il n'y a pas eu de tournant. Aucune réforme n'a été remise en cause. Il n'y a pas de tournant en 1983. C'est un discours idéologique de la droite pour nous dire la gauche s'est trompée et de l'extrême gauche pour dire, voyez, la social-démocratie trahit toujours. C'est ça le biais de la propagande. Il n'y a pas eu. Par contre, ce qui est vrai, ce qu'il y a eu, c'est un arrêt de la croissance des salaires et il n'y a pas eu une deuxième vague de réformes qu'auraient pu souhaiter les uns et les autres. Mais il n'y a pas de tournant en mars 83, d'aucune façon.
Nathalie Saint-Cricq, pour revenir sur l'Europe, dans la citation qui inspire le titre de cette émission, François Mitterrand aurait dit à Georges-Marc Benamou qu'il serait le dernier des grands présidents français à cause de l'Europe, et qu'après lui, les présidents seraient réduits au statut de Premier ministre, de figurant de la vie politique. Et est-ce que vous pensez que, en effet, cette construction européenne a pu réduire, a pu avaler, en un sens, la fonction présidentielle ?
Oh, je ne crois pas, mais simplement, il est vrai qu'il faut de très très fortes impulsions. Il est vrai qu'à cette période, le couple franco-allemand est très fort. Il l'a été aussi sous Giscard. Hein. Il l'a été un peu par la suite, mais c'est vrai que le tandem Kohl-François Mitterrand était très puissant. Qu'il a été puissant au moment où il le fallait, au moment de la chute du mur de Berlin, à plein d'étapes, et que c'est à partir de là que les choses ont pu avancer, et que Mitterrand, comme il le dit dans un extrait qui est dans le même discours que celui que vous avez passé, où il dit qu'il est un homme qui est né pendant la Première Guerre mondiale, qui a connu la Deuxième, et que ça fait partie de ces gens qui considèrent que l'Europe, c'est la paix, et que le couple franco-allemand est en moteur. Il est le garant d'un certain nombre de phases de paix. Mais c'est pas mal de gens pensaient ça. Il y a encore 10 ou 20 ans, tout personne n'imaginait voir des guerres ou voir des choses réarriver. Donc, effectivement, c'était pour lui une tâche absolument essentielle. Et c'est vrai que par la suite, avec des adhésions de pays de plus en plus nombreux, ne pensant pas la même chose, n'étant pas d'accord sur les valeurs, étant D'abord, l'Europe sociale de François Mitterrand. Moi, je me souviens de la campagne de Fabius Tête de Liste qui disait « L'Europe sociale sera sociale ou ne sera pas ». Bon, bah, elle a été, mais pas été, sans être sociale. Mais, et que maintenant, le couple franco-allemand se délitant un peu, on a eu un peu l'espoir avec Merz et Macron que les choses repartent. D'abord, on a une forme d'impuissance française, enfin un sentiment, je ne dis pas que c'est vrai, mais d'impuissance nationale, en disant en gros, bah, ça se passe, on est dépossédé. Le thème du souverainisme remonte. Alors lui parlait du nationalisme, alors avec la distinction de Romain Gary entre le nationalisme, le patriotisme et tout ça, mais considérant que le souverainisme, finalement, c'est quelque chose que les gens comprennent, aiment. Donc, dernier des grands présidents, probablement, mais avec le quinquennat et les réseaux sociaux, comment rester un grand président ?
Jacques Attali, je crois que vous devez nous quitter et je vous remercie.
Je dois vous quitter. Juste un petit mot pour dire qu'une dimension dont on n'a pas parlé et qui est d'une grande actualité, c'est l'importance des programmes. François Mitterrand n'a été un grand président que parce qu'il avait beaucoup réfléchi, lui et l'ensemble de ses collaborateurs, de ses militants, à un programme et qui fait qu'en 81, nous sommes arrivés avec un programme qu'on a pu mettre en œuvre très rapidement. Le drame ensuite, c'est que les présidents arrivent, sont élus sur leur figure et pas sur leur programme. Et donc, nous sommes à la dérive depuis cette époque. Je vous remercie.
Merci beaucoup à vous. Nathalie Saint-Cricq, cette question du programme rejoint peut-être une autre interrogation qui me frappe en préparant cette émission. J'ai lu pendant les vacances de fin d'année plein de livres sur François Mitterrand. Ce qui m'a sidéré quand même, c'est cette autre temporalité de la vie politique. Le président Mitterrand passe son temps à lire, oui, à se promener dans Paris. J'imagine que quand on pense aux politiques aujourd'hui qui sont tous sur leur smartphone, etc., est-ce que c'est aussi ça qui permettait d'avoir de la hauteur de vue et donc de façonner des programmes? Alors, et qui a disparu?
Probablement, mais il a eu, entre guillemets, la chance de pouvoir le faire. On peut déplorer aujourd'hui les réseaux sociaux, la rapidité, le fait qu'un truc, c'est même pas produit qu'il y a déjà une réaction, contre-réaction, sur-réaction, quelqu'un qui like la réaction à la contre-réaction. Donc le malheureux, je pense qu'il aurait été définitivement plus de la fin du 19e que du début du 21e siècle. C'est vrai qu'il faisait ce qu'il voulait, mais ça fait partie de son caractère. Jacques Attali disant qu'il était toujours en retard dans l'opposition et jamais... quand il était au pouvoir, c'est pas parce qu'il est parti que je dis le contraire, mais il a toujours considéré que c'était lui, alors c'est un poncif, le maître des horloges, mais s'il y en avait un qui était bien le maître des horloges, c'est François Mitterrand. Il arrivait en retard au meeting, il faisait ce qu'il voulait, s'il avait décidé d'aller visiter un cimetière, il le faisait, il faisait les choses à sa main. C'est vrai qu'il lisait, et moi, il y a une anecdote au moment du vote de Maastricht en 92, c'est que c'était même très serré, et quand il repart de Château-Chinon, puisqu'il votait à Château-Chinon, on est, je crois, dans mon souvenir, à 49-51, enfin, c'est vraiment, on se dit que tout est ouvert et que tout est possible.
Situation de stress absolu, d'anxiété maximale.
Normalement, oui. Pour quelqu'un de normal, disons quelqu'un comme le commun des mortels, et lui prend son hélico pour rentrer, parce que c'est infernal par la route, enfin, je vais pas vous faire le kilométrage entre Château-Chinon et Paris, et on m'a raconté, parce que nous, on était dans la voiture, qu'il avait pris, je ne sais plus quel mémorialiste du XVIIIe siècle, qu'il avait commencé à lire au décollage, et qu'atterrissant à Villacoublay, il avait dit « Alors, on en est où ?» Et il avait appris, à ce moment-là, que le oui l'avait emporté, sachant que c'était un des présidents qui s'était le plus engagé dans la campagne de Maastricht, que c'était très tendu et qu'on a vraiment, on n'est pas passé loin du non. Voilà, il était comme ça. Il considérait que ni les faits, ni les gens, ni les événements ne devaient lui dicter son comportement.
Merci beaucoup, Nathalie Saint-Cricq, pour cette émission passionnante. Mitterrand, le dernier des grands présidents, j'insiste, c'est difficile à prononcer, mais sur le point d'interrogation, hein, il s'agissait évidemment de questionner cette évolution de la fonction présidentielle. Merci beaucoup, beaucoup à Aline Biette qui a préparé cette émission et beaucoup, beaucoup aussi à Souad Boukorsa qui l'a réalisée et mise en onde. À très bientôt. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site et l'application de Radio France, bien sûr.